Bon, ben, nous allons commencer. Nous sommes tous et toutes ravis de vous accueillir. Catherine Kinnan, professeure d'anthropologie et sociologie à l'URMIS, Université Paris-Cité.
Ex.
Vous allez présenter votre nouvel ouvrage, La République et ses étrangers, 50 années de rencontres avec l'immigration malienne en France. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Et merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir permis de refaire ce chemin que j'ai bien connu il y a quelques années. Et je voudrais avoir une pensée particulière pour deux de nos collègues, Philippe Poutinia et Véronique de Ruder, qui malheureusement nous ont quittés. Alors, je vais vous présenter un peu cet ouvrage en deux temps. Le premier temps, c'est un peu le projet qui a été le mien et le contenu du livre. Et puis, en deuxième temps, je présenterai ce qu'il n'y a pas dans le livre et notamment les questions méthodologiques, d'épistémologie. Donc, le projet qui a été le mien, c'est à la fin des années 60, début des années 2000, les migrants et les migrantes qui étaient arrivés dans les années 60 accèdent à la retraite. Et je dirais c'est la fin d'un premier cycle en ce qui concerne en tout cas l'immigration malienne. En effet, vous le savez, les nouveaux arrivants sont contraints à des parcours très différents et à cause des politiques migratoires. Et la Méditerranée se transforme pour eux en cimetière. Et pour ceux qui tentent de rejoindre la France et qui y arrivent, leur principal souci est alors de régulariser leur séjour, d'obtenir des papiers. Et ils vont, là encore, créer des mouvements associatifs relativement importants, mais principalement pour obtenir leur régularisation. Donc, si vous voulez, une histoire me semblait se terminer, tandis qu'une autre s'ouvrait, et il m'a semblé qu'il était important de faire un bilan, de retracer l'histoire de cette migration et les mémoires. Alors, si vous voulez, ce livre est le fruit d'un demi-siècle, ce qui vous dit mon âge, d'observation, comme Didier Fassin et, bon, j'oublie son nom, les appellent l'observation, l'anthropologie au long cours. Et effectivement, j'ai eu comme objet cette migration malienne pendant 50 ans. Et donc, le rôle de la durée va être important dans mon travail. La deuxième chose importante, c'est le compagnonnage que j'ai toujours eu avec les migrants. La majorité des enquêtes que j'ai menées ont été réalisées et discutées avec les personnages qui figurent dans l'ouvrage, une cinquantaine environ, et ça me semblait, cette inscription dans la durée et le partage avec certains migrants me semblait important et propice pour saisir les changements sociaux et les changements de normes. Un demi-siècle donc d'observation, de changements observés ici et là-bas. Et la situation migratoire est particulièrement propice pour observer le changement et aussi propice à la diffusion de ces changements, grâce d'ailleurs, il faut le noter, à l'importance du mouvement associatif, tant chez les femmes que chez les hommes. C'est un mouvement qui a permis de légitimer le changement. Et si le changement est légitimé, il se diffuse. Ce ne sont pas des transformations individuelles, ce sont des normes de comportement, de relations qui se transforment. De nouvelles formes de solidarité vont être à l'œuvre, notamment, parce que c'est aussi une des caractéristiques de cette migration, à travers les différentes et nombreuses luttes menées, soit pour le logement et les occupations, l'esplanade des Invalides, etc., notamment où les femmes ont joué un rôle très important, ou syndicales, comme à Renault, les luttes, par exemple, pour OS pour tous, ou à Accor, plus récemment, les femmes de ménage qui se sont organisées pour lutter contre leurs conditions de travail. Et il faut noter que pour eux, c'est une véritable découverte. C'est-à-dire que c'est lutter, se syndiquer, c'est quelque chose d'absolument nouveau et qui va jouer un grand rôle dans leur processus identitaire, un grand rôle dans la définition d'eux-mêmes et cette recherche de dignité particulière. Alors, la posture que j'ai adoptée, qui est un peu particulière et peu commune, vient premièrement d'une demande de certains migrants affirmant d'abord que je ne pouvais pas les connaître si je ne me rendais pas dans leur village, si je ne savais pas d'où ils venaient. Donc, ils m'ont proposé de partir avec eux dans leur village. Mais aussi, une demande que j'appelle d'anthropologie, qui n'était pas dans leur bouche une demande d'anthropologie, qui était de connaître les raisons des échecs que leurs initiatives à l'endroit des villages, les raisons donc des échecs de leurs initiatives dans les villages. D'une certaine manière, ils avaient par exemple un projet de construire une école, de faire venir un instituteur, et les anciens, beaucoup d'anciens, pas tous les anciens, mais s'opposaient à cela. Les femmes, notamment, s'opposaient à cela en disant « Mais si on fait venir à l'école des filles, après, qui va prendre notre relève et nous relayer ?» Et donc, il y avait un décalage entre les migrants, qu'on appelait d'ailleurs les Frenchmen, les migrants et les villageois, et ce qui était d'ailleurs, parce que c'était aussi mon objet, une des preuves du changement, des changements qui avaient eu lieu. Et début des années 2000, je me suis encore compliqué un peu la tâche en effectuant une nouvelle enquête auprès des acteurs concernés, toujours les mêmes, hein, c'est important à noter, une enquête sur les représentations qu'ils avaient de leur propre parcours. Donc, si vous voulez, j'avais 40 ans d'enquête, 40 ans de carnet de terrain, plus cette nouvelle enquête, et c'est plus cette nouvelle enquête. Alors, cet ouvrage, j'avais choisi comme titre « Une si longue histoire », 40 ans avec un sous-titre « 40 ans d'immigration malienne en France », et la maison d'édition a trouvé que ce n'était pas accrocheur, et donc a retenu le titre d'un des chapitres de l'ouvrage, et La République et ses étrangers. Ça me convenait, mais en même temps, ils trouvaient qu'une si longue histoire, ça ne disait pas ce dont il était question dans le livre. L'ouvrage tente, hein, ce qui aussi n'est pas toujours fait, de mettre en regard les politiques migratoires et les situations, heureuses ou malheureuses, qu'elles induisent pour les femmes, les hommes et dans les rapports entre eux. Il en donne Donc, si vous voulez, je voulais voir comment les différentes politiques, le regroupement familial, la fermeture des frontières, etc., les politiques de logement, avaient des effets sur les conditions de vie et sur la vie de ces gens. Alors, l'ouvrage... oui, à quelle heure vous voulez que je m'arrête? Bon. Hein? On dit 3h30, ça vous va? Hein? Puis après, on aura le temps de discuter. Ok. Donc, la famille, hein, c'est le premier chapitre, d'ailleurs, plusieurs chapitres. Et ce choix, c'est parce que c'est sans doute la structure la plus rétive aux transformations. Les normes familiales, en tout cas en ce qui concerne les migrants maliens, sont extrêmement fortes, les encadrent beaucoup, puisque c'est dans le cadre de la famille, dans les villages, que pratiquent les activités économiques, l'éducation des enfants, les activités sportives, il n'y en a pas beaucoup. Mais donc, si vous voulez, la famille, c'est un nœud qui résiste aux transformations, mais la migration, tout particulièrement d'ailleurs celle des femmes, lors du regroupement familial, entraîne une réinterprétation des rôles familiaux et conduit les hommes à adopter de nouveaux comportements, ou pas d'ailleurs, parce que alors chez les hommes, c'est nouveau, évidemment, dans la mesure où c'est assorti de certains privilèges, les rapports entre les hommes et les femmes, ils sont très réticents, eux, à changer de comportement vis-à-vis des femmes. Mais certains vont le faire, d'autres vont refuser de le faire, et ça donnera lieu à des conflits importants au sein de la famille. Alors, les deux premiers chapitres traitent de ça, du départ, l'arrivée, et des lois, évidemment, qui vont encadrer ces pérégrinations. Il y a un décalage qu'il faut noter, c'est que les hommes arrivent avant les femmes, les hommes arrivent milieu des années 60, et extrêmement jeunes, hein, ils viennent à 16, 17 ans, et les femmes, avec le regroupement familial, viennent très jeunes aussi, encore plus jeunes, mais plus tard. Et il va y avoir un décalage d'âge très important entre le moment où les hommes font venir leurs femmes et donc, ou surtout, entre l'âge des hommes et l'âge des femmes. Certains migrants qui aujourd'hui sont à la retraite depuis un bon moment ont des femmes de 40, 45 ans. Et d'ailleurs, ça va créer des conflits. Quelquefois, les hommes décident, on verra pourquoi, de retourner au village, alors que les femmes, elles vont décider de rester en France. Et elles sont, j'en parlais tout à l'heure, elles sont plus impliquées dans la vie quotidienne. Et enfin, le troisième chapitre traite des conflits, toujours à propos de la famille, traite des conflits intergénérationnels selon le genre, c'est-à-dire, et la manière de les gérer. Les hommes et les femmes ne gèrent pas de la même manière ces conflits. On observe une plus grande compréhension des femmes qui, bien qu'elles soient considérées comme celles qui transmettent la tradition, eh bien, sont aussi celles qui sont le plus en empathie avec leurs filles et avec leurs garçons. Alors, les femmes vont avoir aussi plus recours à la justice, à la justice française, que aux formes de justice qu'il y a dans les villages. Alors, les conflits donc, sont soit réglés dans l'entre-soi, mais aussi une initiative qui a été répétée plusieurs fois, qui a été celle de régler leurs problèmes publiquement. Au moment des émeutes de 2005, les pères, P-E-R-E-S, les pères les plus âgés vont convoquer des discussions publiques avec les jeunes. Et vous allez avoir des échanges entre les vieux et les jeunes, les vieux interrogeant les jeunes sur le pourquoi de leur révolte et leur type de manifestation, et les jeunes répondant aux parents sur ces questions. Et j'ai assisté à plusieurs, ça se fait par exemple dans les bourses du travail, ça se fait vraiment dans des lieux publics, et il peut y avoir 200, 300, 400 personnes dans ces réunions. Ça, c'est pour les trois premiers chapitres. Le quatrième chapitre s'attache à retracer les parcours résidentiels des migrants, qui sont de véritables parcours de combattants, qui vont défoyer l'habitat, va défoyer pour célibataires à l'accession à la propriété. En effet, l'accession au HLM est très rare, il y a une ségrégation de ce point de vue-là qui a été étudiée, et la seule solution pour les migrants a été de devenir propriétaire. Ça a été des expériences catastrophiques pour certaines, c'est-à-dire que assez vite, s'ils perdent leur travail, ils ne peuvent plus payer les traites qu'ils avaient prêtées. On leur a fait, c'est une histoire extraordinaire, on leur a fait des prêts à 0% à l'époque pour les inciter. Il y avait dans les foyers des promoteurs qui venaient distribuer des tracts en leur disant « vous pouvez devenir propriétaire », etc. Et comme ils n'avaient pas tellement d'autres solutions, et c'était comme un rêve pour eux être propriétaire d'un appartement, et pour certains, ça a été des mises de fonds inutiles dans la mesure où ils se sont fait virer ce qui n'était pas encore leur propriété et qui, voilà, de leur logement. La ségrégation va nécessiter de penser, d'inventer de nouveaux modes de cohabitation afin d'éviter, autant que faire se peut, des relations antagoniques, des relations de voisinage avec les autres. Les femmes assument ici une place prépondérante dans les relations de voisinage avec des populations qu'elles ne connaissent pas et d'origine différente. Alors, dans le chapitre 5, qui est toujours sur la question du logement, il est plus orienté vers le rapport entre les politiques publiques de logement et les luttes pour le droit au logement, puisque vous savez qu'un grand nombre des luttes qui ont été faites, on disait les Maliens de Vincennes, un grand nombre de luttes pour le logement ont été, il n'y avait pas que des Maliens, mais ont été beaucoup pratiquées. Les gens sont restés longtemps sur l'esplanade de Vincennes, ça a posé là aussi dans les rapports de sec des problèmes, puisqu'il fallait que les femmes organisent la vie quotidienne avec les enfants, les hommes n'étaient pas toujours présents, enfin bon, ça a été un moment important et nouveau, parce que si vous voulez, ce type de lutte des femmes avec des occupations de place, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres situations, pas simplement les situations migratoires, je pense qu'elles ne pouvaient pas imaginer avant leur départ du village, qu'elles allaient se retrouver sur le trottoir, campant sous des tentes, faisant leur vaisselle en public. Alors, voilà. Alors, donc ça, c'est dans le chapitre 4. Dans le chapitre 5, c'est dans le chapitre 5. Et après, je passe aux questions du travail, le travail régulier ou le travail au noir, le chômage, les accidents du travail qui vont donner lieu à justement des non-reconnaissances comme accidents du travail avec des gens qui sont renvoyés au village et toute la difficile ascension des migrants et encore plus des migrantes. Parce que le travail des migrants, n'est pas considéré comme important. J'avais été voir, comment elle s'appelait, le ministre, peu importe, des droits des femmes, et j'avais dit qu'est-ce qui est prévu pour la formation, parce que la seule formation qu'on donnait aux femmes, c'était l'alphabétisation. Alors on leur apprenait, et à la limite, on reproduisait des schémas périmés, à la limite la couture. Les deux choses auxquelles on les formait, c'était apprendre à lire, ce qui est d'ailleurs déjà pas mal, parce qu'il fallait le faire, et la couture, et alors, j'ai oublié son nom, peu importe, donc elle m'a répondu, ah ben non, on est la République, on ne va pas faire des choses spécifiques pour les femmes africaines, il n'y a pas question, il n'y a pas de formation prévue pour elles. Donc, si vous voulez, la question de la formation est envisagée là au regard des politiques étatiques notamment les politiques de formation, parce que sinon, sur la question des droits sociaux, c'est vrai que les droits du travail, je ne vais pas m'avancer, mais les migrants y ont droit. Alors ensuite, tout naturellement, d'ailleurs, je m'interroge sur justement ce mouvement associatif qui est quand même, il existe dans d'autres, chez d'autres populations, mais il est quand même assez exceptionnel et je m'interroge pourquoi et j'essaye d'analyser les actions citoyennes des femmes qui sont principalement situées en France par le biais d'associations qui sont nombreuses, d'associations de femmes. Alors ces associations, bon, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, sont des associations qui ne sont pas uniquement maliennes, elles sont multinationales, c'est des associations d'Africaines. Et les hommes, eux, ont des associations aussi en France, mais leurs actions privilégient le Mali, leur pays d'origine, leur village d'origine ou plusieurs villages d'origine. Et c'est leur manière aux uns et aux autres de trouver une place, de garder sa dignité dans une société qui vous minorise, et c'est un défi que femmes et hommes ont su relever. Et émergent alors des formes inédites et sexuées de citoyenneté qui sont étudiées dans le chapitre 8 et 9. Enfin, bon, mais je développe beaucoup là-dessus parce que ça me semble tout à fait intéressant, et là aussi du point de vue des transformations, parce qu'au village, toutes les initiatives des migrants vont amener des bouleversements dans les rapports sociaux. Vous allez avoir des associations de jeunes, par exemple dans les villages, qui vont prendre le relais des projets des migrants, qui vont se greffer aussi sur les projets des migrants. Par exemple, s'ils ont un projet de commerce de la patate douce, les jeunes vont conduire les camions, gérer plus ou moins ce marché, et ils vont être payés pour ça. Ça, c'est aussi une grosse transformation dans le village, parce que apparaissent des salaires, alors que en général, le travail dans les villages était le travail des plus jeunes pour les plus anciens, mais ne générait pas de salaire. Donc, vous voyez, c'est toutes ces transformations en boule, si je peux dire, en boule de neige, que j'ai longuement étudié dans les chapitres 8 et 9. Enfin, pour terminer cette partie, dans un épilogue, sont relatés les voyages que les migrants font, les voyages qu'ils s'accordent et qui ne sont pas le voyage de la pérégrination, le voyage de la migration, des voyages de plaisir, des voyages comme loisirs finalement, dans la mesure où ils utilisent très peu les loisirs de la société de consommation, et que on dit dans tous les récits anciens que les Sonke, puisqu'il s'agit d'eux, sont des grands voyageurs, et ils perpétuent cette tradition. Donc je raconte, c'est les migrants qui racontent certains voyages, notamment un voyage en Égypte qui est absolument fabuleux. Malheureusement, j'aurais voulu avoir plus de détails, mais la personne qui l'a fait est décédé en cours de route, mais il m'a raconté son voyage en Égypte, et il tenait absolument à aller en Égypte. Alors il donnait les raisons, pays de mon origine, etc., etc., et c'était absolument fabuleux. Et voilà, donc si vous voulez, la dernière ambition de cet ouvrage, il se veut à sa manière de privilégier une commune humanité, d'insister sur les formes de communication, d'échange. Il se veut être une petite contribution à l'antiracisme. Le racisme, les différentes formes qu'il revêt, institutionnelles, systémiques, quotidiennes, ne fait pas partie d'un chapitre particulier, comme la religion d'ailleurs. Il traverse chacune des situations étudiées: ségrégation pour l'accès au logement, discrimination à l'embauche, stigmatisation des familles, déni de citoyenneté, etc. Voilà. Alors ça, c'est une description de ce que vous pouvez trouver, pour vous mettre l'eau à la bouche si vous lisiez, de ce que vous pouvez trouver dans l'ouvrage. Mais je voudrais aussi vous présenter, je vous l'ai dit en commençant, ce qui est absent dans cet ouvrage, dont l'objectif était aussi, pas seulement, de s'adresser aux migrants et aux migrantes, dans la mesure où ils relatent 50 ans de leur histoire. Et ceci explique aussi une part de certains manquements académiques, dans la mesure où je ne voulais pas, il est court, ce livre, et je ne voulais pas alourdir avec la citation des auteurs, les sources, etc. Je voulais qu'ils puissent s'en saisir, ce qu'ils ont fait. Je reçois quelquefois des coups de téléphone du Mali en me disant « Ah, on a lu ton livre, etc. etc. » Et c'était quand même un de ces objectifs. Alors, pourquoi je voudrais quand même dire quelques mots de méthodologie, parce que je pense qu'il s'agit d'une pratique de l'anthropologie qui n'est pas tout à fait orthodoxe. Pour un certain nombre de raisons, la première chose, c'est l'importance de la durée dans ce travail d'un rythme lent avant d'aboutir à la restitution. Parce que cette non seulement on faisait les enquêtes ensemble, on discutait de leurs interprétations, mais aussi je restituais le travail. Ce qui est, j'ai retardé le premier ouvrage que j'ai écrit, je l'avais retardé de 6 mois, parce que les migrants me disaient, je racontais l'histoire d'un noble qui avait tabassé, enfin donné quelques gifles à un esclave parce qu'il lui avait pas fait ce qu'il voulait. Et il me disait, tu mens, t'as pas vu ça, tu mens. Et on n'arrivait pas à trouver. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui me dit, bah, tu comprends, si tu nous présentes comme ça, on a l'air d'être archaïque, on a l'air d'être des gens du Moyen-Âge, qui tapent les esclaves, tu parles de... Alors, on a discuté de ça, et ça m'a amené à... Je ne pouvais pas changer les termes de ce que j'avais vu, mais au moins à réécrire de manière à ce qu'eux-mêmes ne se sentent pas visés, ne se sentent pas stigmatisés. Voilà. Alors, je dis le rythme, la place de la durée, c'est très important parce que, d'une certaine manière, on voyait partout, je vous l'ai un peu dit dans la première partie, on voyait partout les transformations. Transformation de l'espace. Alors, des routes, parce qu'ils ont fait des petites routes, hein, ce n'est pas des grands axes routiers, mais des routes, des ponts, les relations entre les migrants et, et les autres villageois. J'observais, hein, et évidemment, si vous y allez 2 fois ou 3 fois, et pas dans le même endroit, parce que je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Donc, il fallait que le travail soit inscrit dans la durée si je voulais pouvoir saisir les changements. Et c'est le deuxième point, l'importance dans ce travail qu'a eu l'observation, surtout quand, au fil des voyages, du travail en commun, on est presque des amis, hein, on est en tout cas des proches. Hein. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire que faire l'anthropologie sur ses proches, sur des amis? L'observation restait quand même fondamentale. Par exemple, hein, mais c'est un travail un peu de fourmi, aller chercher les enfants à l'école avec leur mère, voir leur goûter, comment il était donné, comment leur travail, ça c'est très important, la considération par les mères ou par les pères du travail des enfants, ça a changé considérablement, l'arrivée des pères, les courses, j'allais faire des courses avec elles dans un quartier de Barbès où il y a des produits africains, donc on voit ce qu'ils mangent, etc. Et aussi, alors moi, ça a été moins pour le travail parce que je ne pouvais pas rentrer comme ça en usine et voir ce qui s'y passait, mais j'ai quand même vu plusieurs formes de travail. Par exemple, il y a tout un quartier où il y a des tailleurs qui font des uniformes, notamment pour les cérémonies, j'ai assisté donc à leur relation de travail avec les uns avec les autres, les hommes avec les clients, et j'ai suivi des cérémonies, des baptêmes, des mariages, des enterrements, en quelque sorte, si vous voulez, ce qui peut constituer l'intimité de famille. Cet accompagnement, hein, je vous prends un exemple, parce que c'était tout à fait paradigmatique de mes modes de formation. Un des collègues, qui a disparu malheureusement aussi depuis, on était dans le train Bamako-Kaye. Alors lui, il était venu avec les gros sacs, vous savez, bleu, blanc, rouge, et comment ça s'appelle ? Un porte-manteau. Bon, alors il y en a un. Et tout d'un coup, il en a eu marre parce que c'était le bordel le plus complet dans le train. Il y avait des chèvres, des poules attachées par les pattes, bon, tout. Et, un petit enfant qui faisait pipi dans un pot et hop, on versait le pot par terre dans le train, etc. Et alors, ce collègue, il a piqué une colère et il a mis les gens à ranger le train. Alors, il voulait organiser. Alors là, ça m'a appris des choses sur les relations. Ça a été levée de bouclier et Franchman, là, qu'est-ce que tu fais tout bab, tu te crois, je ne sais pas où, on n'est pas dans un TGV, il connaissait le mot TGV, on n'est pas dans un TGV ici, etc. Et il y avait donc des situations comme ça sont significatives des relations que les gens entretiennent entre eux. Alors, jamais je prenais de notes au cours de ces rencontres, ou même dans le train, ça aurait été difficile, mais mes observations étaient consignées immédiatement après. Dès que je pouvais, j'écrivais, même c'était, ça amusait beaucoup les enfants dans les villages, dans la case où j'habitais, ils regardaient par la fenêtre, ils me voyaient écrire, ils se moquaient de moi, tu écris tout le temps, etc. etc. Donc ça, ça a été quelque chose, l'observation hein, au quotidien, répétée au long cours, a été tout à fait importante. Ensuite, que je travaillais avec des migrants, il y a eu des difficultés de compagnonnage sur le terrain. Tout n'était pas toujours idyllique. Et une fois, d'ailleurs, on était en 4x4, on discutait justement des femmes. Alors, il y en a un qui me disait « Ah, mais les femmes, elles ne comprennent rien à ce qu'on fait, je ne sais pas quoi. » Alors, je lui dis « Arrête, hein. » Et tout d'un coup, il stoppe effectivement la voiture et il me laisse sur le bord du chemin, tout à fait en colère. Bon, on était quand même à 1h30 de marche du village où on allait. Bon, je me suis ramenée. Il y a quand même un jeune aussi qui, à la fin de mon parcours, est venu me chercher. Ils ont dû avoir un peu autre, mais c'était assez violent. Au début, tous les migrants étaient contre Moussa Traoré. Si vous voulez, il n'y en avait aucun, et dans les villages, partout, il y avait une espèce de haine contre Moussa Traoré. Comment ?
C'était le président.
Ah oui, pardon. Excusez-moi. D'ailleurs, c'est une des choses que mon éditeur m'a dit, parce qu'il y avait certaines j'omettais, comme j'avais écrit mon premier bouquin, que j'avais fait plein d'articles, j'omettais de dire les choses, il me dit, mais c'est quoi ça ? Mais ça, c'était bien pour là-dessus. Ils ont été très efficaces et importants. Alors, l'engagement politique de certains, à partir justement de la chute du président de la République, a aussi pesé sur les enquêtes. Alors, on faisait une enquête, c'était juste avant les élections. Les migrants avaient beaucoup participé d'ailleurs aussi au débat sur la Constitution. Ils avaient mis justement que leurs associations soient reconnues, des choses comme ça. Et donc, y en a qui étaient engagés politiquement et qui, lors des enquêtes, faisaient de la propagande pour tel parti ou au contraire, pas de parti. Enfin bon. Et là, quelquefois, on a dû arrêter l'enquête commune parce que ça devenait absolument... C'était intéressant, hein, on aurait pu aussi interpréter tout ça, mais enfin, ça devenait trop difficile. Ensuite, des différends à propos des interprétations, des observations que j'avais faites. Et ça, c'était intéressant parce que quelquefois, il y avait des bévues, je n'avais pas bien compris. ce que les femmes ou les hommes faisaient. Je me souviens avoir apporté des pagnes une fois et les donner aux femmes. Et une des femmes âgées me dit « Ah, ça, c'est bien pour les jeunes. » Je me suis dit, je me suis trompée, il ne fallait pas offrir ça. Il ne fallait pas offrir ça aux femmes, etc. Et puis 2 ans après, ça m'est revenu, je l'ai dit à quelqu'un. Il m'a dit, oh non, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que les femmes jeunes vont leur piquer. Et voilà, donc c'était, moi, je m'étais trompée sur l'interprétation. Autre problème, c'est que... bien que la responsabilité de l'écriture m'incombe, mais les migrants sont présents et reconnaissables malgré tous les efforts d'anonymisation qu'on peut faire. Hein. Il y a peu de migrants, anciens captifs, peu arrivés en France analphabètes, qui aujourd'hui sont députés, voire questeurs de la République. Tout le monde savait qui était ce monsieur, je ne mettais pas son nom, mais c'était vraiment... l'hypocrisie. Donc, ça pouvait amener à réactiver des conflits. En effet, il y avait un imam qui, en général, dans les associations, tous les gens du même village, ici en France, cotisent. Et il y avait un imam qui n'avait jamais voulu cotiser. Donc, au village, ils ont fait la grève de la mosquée, enfin bon, bon, bon. Et le livre, c'est étonnant, mais ça circule quand même, est arrivé dans le village. Et les gens m'ont dit, écoute, l'imam, il est mal, là. Et puis surtout, on avait réglé le conflit avec lui. Et remettre ça, s'ils voient que c'est public, c'est pas possible, ça réactive le conflit. Donc là aussi, faire attention, enfin, on ne peut pas tout éviter, hein, mais il fallait faire attention. Donc voilà, enfin, dernière chose, c'est l'aspect un peu irénique de ce livre, mais c'était un choix d'éviter le misérabilisme, de privilégier les dynamiques positives, qui sont quand même des dynamiques bien réelles, et non seulement des dynamiques bien réelles, mais qu'on retrouve de par le monde. Hein, par exemple, Portes a écrit des articles sur le mouvement associatif, le développement par ces mouvements. Donc, privilégier ces dynamiques, ce qui, évidemment, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres figures hein, de migrants. Il y a des migrants focalisés sur le retour, pour qui le travail en France est vraiment une parenthèse, et qui n'ont pas appris le français, qui sont restés vraiment cantonnés dans leur communauté, communautarisme, diraient certains, et qui, en général d'ailleurs, ça correspond aux nobles qui sont plus, qui ont des privilèges à défendre quand ils rentrent, et donc ils veulent un peu d'argent, et ensuite ils rentrent. Il y a aussi tous ceux et celles, qui sont moins nombreux, qui ont rompu tout contact avec leur famille, avec leur village, et ces deux catégories, ceux-là, ne désiraient pas particulièrement s'engager dans notre aventure, bien qu'ils se soient souvent exprimés, notamment dans les discussions que j'avais dans les foyers. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là.